Alors, moi j'ai découvert la solitude, comme je vous le disais tout à l'heure, lors du voyage, en 2003. J'avais voyagé auparavant énormément de fois avec des compagnons, et même avec une jeune fiancée qui s'appelait Priscilla Tellement, que certains d'entre vous connaissent, parce que je crois qu'elle est venue donner une conférence ici sur son voyage au Tibet, et ce voyage avait été merveilleux. Avec Priscilla, nous étions partis dans les Sept de l'Asie centrale à cheval. Elle m'avait tout à fait alimenté de sa joie, de sa bonne humeur, de sa légèreté, de sa drôlerie. Ça avait énormément agacé aussi, comme ça peut le permis. Et en même temps, j'avais découvert à la suite de ce voyage que le fait de partager en permanence, d'être dans une sorte de conversation avec quelqu'un, c'est une sorte de paradoxe et de déni de la raison pour laquelle on part voyager. Car quand on part voyager, on coupe les amarres, on se livre à une expérience de métamorphose, on décide tout à coup de lancer 6 mois tête baissée dans un projet de nomade, traverser des steppes, une traversée de la forêt, une traversée en bateau, ça j'ai jamais fait. Enfin, on décide soudain d'essayer de demander à l'espace que le temps ne peut pas vous apporter, c'est-à-dire de vous transformer par la pratique de la marche et de l'avancée solitaire. Or, on ne va pas jusqu'au bout quand on part accompagné. Car quand on part accompagné, on emporte avec soi une béquille. Par exemple, pour Priscilla, c'est ça, c'est pas une béquille, mais on emporte avec soi une compagne, et donc on emporte une oreille bienveillante, on emporte une épaule sur laquelle s'appuyer, et on part dans la radicalité. Alors moi, ce sont les expériences radicales qui m'intéressent. Pour que le voyage soit véritablement une métamorphose au sens de la nue, il faut, à mon avis, renoncer à emporter avec soi un morceau de la civilisation à laquelle on prétend échapper, ou tout du moins de laquelle on prétend s'extraire. Et il est évident que voyager avec quelqu'un, c'est emporter avec soi une petite parcelle de la civilisation. Et moi, quand j'ai commencé à voyager seul, je me suis rendu compte que la seule chose qui m'intéresse quand je voyage, c'est d'observer le monde, pour pouvoir ensuite éventuellement le décrire. Or, je me suis aperçu que ma capacité d'attention, d'observation du monde, était, je regarde l'heure, je ne m'ennuie pas, mais c'est juste pour ne pas être trop long, ma capacité d'attention et d'observation du monde était infiniment décuplée et multipliée lorsque j'étais seul. C'est ce que les Japonais du Zen, de l'école Zen, appellent le Samu. C'est un magnifique mot, le Samu, qui consiste à être attentif à la moindre chose, à regarder les choses avec une sorte de, non seulement de bienveillance, d'attention, de compassion, mais surtout de tentative d'imprégner tellement son regard de l'objet qu'on observe qu'on finit par devenir l'objet qu'on observe. Vous avez un texte magnifique qui décrit ça, c'est un japonais assez contemporain qui s'appelait Sosuki, qui a écrit dans les années 50 un petit livre appelé « Oreiller d'herbe ». Il raconte l'histoire d'un vagabond japonais qui part, comme ça, un vieux monsieur, qui part dans le Japon industriel, il va dans les campagnes, il s'enfuit de la ville et c'est un peintre. Et il s'arrête devant un bambou, un lotus, un nénuphar comme ça. Et pendant des heures, il le regarde afin de devenir le bambou, de devenir le nénuphar, de devenir le lotus et enfin le peindre. Et c'est un livre qui parle de ça, du samu, de la capacité d'attention. Or, il n'y a pas de samu possible si l'on n'est pas seul. Ça, c'est la première chose. Et entre parenthèses, oreiller d'herbe, c'est le titre du livre. C'est très joli comme expression, ça veut dire le vagabondage en japonais, parce que l'oreiller d'herbe, c'est la prairie sur laquelle on couche sa tête. Alors, ça, c'est l'histoire de l'attention portée à la chose. Ça m'amène à parler, à mon avis, de la deuxième vertu de la solitude, qui est la capacité, lorsque vous êtes en état de solitude, ou du moins en posture de solitude, lorsque vous êtes en esprit de solitude, une durée déterminée que vous avez choisie, je m'aperçois que ça m'aide énormément à pratiquer un exercice que j'ai essayé de développer depuis que je voyage seul, qui est la technique de l'énergétisation. Alors là, je vais vous expliquer ce que j'entends par cette espèce de concept rapidement. J'ai fait un voyage il y a 2 ou 3 ans dans les steppes de l'Asie centrale pour m'intéresser, pour méditer, enfin en tout cas pour me pencher, sur le très beau thème de l'énergie intérieure, celle que nous avons en nous. Je ne sais pas très bien ce que c'est un concept un peu flou. Enfin, grosso modo, c'est cette espèce de potentiel de force qui dort à l'intérieur de nous-mêmes et que de temps en temps, on va convoquer, on va puiser à la manière des forages pétroliers et on va ramener cette énergie que l'on a convoquée au plus profond de soi-même à la surface de notre être. Et on va demander, imposer à cette énergie de nous aider à accomplir nos désirs et à assouvir nos besoins. Voilà, ça c'est la définition de l'énergie. Et je me rends compte que lorsque je suis en ville, sédentaire, chez moi, je ne suis pas du tout dans la même fébrilité énergétique que lorsque je suis en route. Lorsque je suis en chemin, lorsque je suis dans un mouvement, lorsque je poursuis l'horizon, à vélo, à pied, à cheval, je suis dans un état de grande énergétisation pour trois raisons. La première, c'est que le voyageur ne peut pas se permettre de trop s'intéresser au passé ni de trop compter sur l'avenir. Il est véritablement dans l'école du moment présent, du ici et maintenant, de cette fantastique acceptation de ce qui arrive. Et de la même manière, mais l'un découle de l'autre, cette acceptation, cette adhésion à l'instant présent, ça l'amène à accepter totalement l'inconnu. Le voyageur est dans l'appétit de l'inconnu. Il ne sait pas ce que lui réserve la halte du soir, il ne sait pas ce que lui réserve le prochain tournant de la route, il ne sait pas ce que lui réserve le revers de la colline, et il est dans cette joie de l'inconnu qui se renouvelle perpétuellement. Il est dans la perpétuelle jaillissement d'imprévisibles nouveautés. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle est d'un philosophe, mais on dirait un poème. Et bien ce perpétuel jaillissement d'imprévisibles nouveautés qu'on ressent lorsqu'on est en état de nomadisme, eh bien il est infiniment décuplé lorsqu'on se trouve seul. Parce que tout à coup, l'expérience, ne se partageant pas, eh bien on est face à elle.